Un journal présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir. L'Azerbaïdjan et surtout la Turquie sortent victorieuses du conflit du Haut-Karabakh. La Russie impose un cessez-le-feu défavorable aux séparatistes arméniens. Dossier dans ce journal avec notre invité Gaït Sminassian, spécialiste du Caucase à Sciences Po. Nous allons gagner, tweet Donald Trump 3 jours après sa défaite face à Joe Biden. Le président américain peut compter sur le soutien sans faille de la plupart des responsables du parti républicain. La lutte antiterroriste au cœur d'un mini-sommet européen aujourd'hui. À l'Elysée, Emmanuel Macron a une nouvelle fois établi un lien entre immigration et terrorisme islamiste. Enfin, le groupe Printemps ferme 7 magasins en France. 450 emplois, soit 15% des effectifs, pourraient être supprimés. L'Azerbaïdjan fête la capitulation de son rival arménien. L'Arménie pleure une défaite historique. Au milieu, il y a la Russie qui a obtenu l'arrêt des combats dans le Haut-Karabakh. C'est Vladimir Poutine qui a négocié, voire imposé, le cessez-le-feu signé hier soir. L'Azerbaïdjan récupère une partie du Haut-Karabakh, dont la deuxième ville Chouchi. Les séparatistes arméniens gardent le contrôle de la capitale Stepanakert et d'un étroit corridor qui les relie à l'Arménie. 2000 soldats russes vont être déployés sur place pour faire respecter le cessez-le-feu. À Yerevan, des centaines de personnes ont crié leur colère hier soir contre le Premier ministre Nikol Pachinian. Le reportage d'Anissa El-Jabri.
Dans les toutes premières minutes, un concert de klaxons dans les rues principales, devant les ministères, puis un rassemblement spontané, plusieurs dizaines de personnes, puis quelques centaines. Place de la République, une des places fortes de la révolution de velours il y a 2 ans, le siège aussi du bureau du Premier ministre. Vitres brisées, portes forcées, bureaux envahis et saccagés, forces de l'ordre passives, colère.
Le Premier ministre nous a vendus. Nikol Pachinian a vendu l'Arménie. C'est un traître. Le Premier ministre est le premier traître du pays. On attend des explications, on le cherche, et lui, il n'est plus ici, c'est une honte.
Il a donné nos terres, il faut brûler son bureau, dissoudre le gouvernement, brûler l'ambassade de Russie.
Nikol Pachinian, introuvable, s'est exprimé à 4h30 du matin sur Facebook, affirmant vouloir donner plus de détails dans une semaine. Avant même la signature de l'accord, 17 partis d'opposition avaient réclamé sa démission.
Anissa El-Jabri, correspondante de RFI à Yerevan, la capitale de l'Arménie, invitée de ce journal, Gaït Sminassian, enseignant à Sciences Po, spécialiste du Caucase. Bonsoir.
Bonsoir.
Gaït Sminassian, les Arméniens avaient conquis le Haut-Karabakh en 1994 à l'issue d'une guerre qui avait fait 30 000 morts. Peut-on dire que cette fois, c'est la Turquie qui a permis à l'Azerbaïdjan de l'emporter sur le terrain militaire?
Totalement. La différence entre cette guerre-là et la guerre précédente, c'est qu'on a fait intervenir de manière massive les drones Bayraktar turcs qui ont fait la différence et qui ont également fait la différence en Libye, plus l'irruption de 2000 à 3000 djihadistes proches de la Turquie dans le cadre d'une armée professionnelle et bien équipée qu'est l'Azerbaïdjan. Vous rajoutez aussi l'armement israélien, donc il y avait une sorte de coalition Azerbaïdjan, Turquie, Israël et djihadistes, un attelage baroque, je ne vous cache rien, et forcément l'Arménie, qui a mené une guerre du XXe siècle et pas du XXIe siècle, eh bien, a perdu au bout de 6 semaines de combat.
L'Arménie n'était pas au niveau militairement pour s'opposer à l'Azerbaïdjan ?
L'Arménie, effectivement, l'Arménie a mis en place une armée de contre-attaque dans le strict cadre soviétique, c'est-à-dire artillerie et blindés, au lieu de mettre l'accent sur une armée d'attaque, c'est-à-dire une aviation et des drones. Et donc, elle paye cette défaillance stratégique fondamentale en croyant que les montagnes lui servaient de rempart, ce qui est peut-être vrai dans le cas d'une guerre traditionnelle, mais dans les guerres modernes avec les drones, ce n'est plus le cas. Et je pense que l'ensemble des états-majors des armées du monde va regarder de près cette histoire de guerre dans les montagnes, parce qu'on a vu une armée du XXIe siècle, turco-azéro, etc., face à une armée du XXe siècle.
Est-ce que la Turquie est intervenue directement dans le conflit?
Oui, elle est intervenue directement dans les conflits, et pas depuis uniquement le dimanche 27 septembre. Cela fait longtemps que la Turquie équipe l'armée azerbaïdjanaise, des instructeurs, de l'assistance technique. Au mois d'août, il y avait eu des manœuvres conjointes turco-azéries avec des F-16 turcs, donc qui sont restés sur place, des forces spéciales, maintenant des drones. Donc oui, on peut dire que c'était un axe Ankara-Bakou, principalement dans ce conflit.
Ça veut dire qu'il y avait aussi des soldats turcs engagés sur le terrain dans le Haut-Karabakh ?
Je pense que oui. Et je pense que oui, forcément, des instructeurs, des forces spéciales, rien qu'une assistance technique pour les drones, alors dont le centre d'opération pouvait être soit en Azerbaïdjan, soit en Turquie, parce qu'on ne sait pas d'où partent les drones, mais en tout cas, ce qui est d'où ils sont télécommandés, on va dire. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la Turquie, d'ailleurs, ne s'en est pas cachée. Hein. Il y a eu plusieurs visites du ministre de la Défense turc à Bakou. Ce n'est pas pour les commémorations qui s'est présenté dans la capitale azerbaïdjanaise.
Gaïz Minassian, on a tout de même l'impression que l'Arménie n'avait aucun allié dans ce conflit.
Et c'est la grande leçon à tirer de cette guerre. C'est que l'Arménie étant l'allié de la Russie, eh bien, la Russie a été plutôt sonnée, un peu comme un boxeur dans un coin, a été sonné par l'irruption de la Turquie dans le jeu. La Russie savait que la Turquie était de plus en plus présente dans la région, mais elle ne s'attendait pas à ce que ça se fasse de manière si massive. D'autre part, l'Occident et l'Arménie, qui ont des relations assez fortes, eh bien, sur le coup, on n'a rien vu venir. Et vous posez une question fondamentale, qui est la question de l'alliance. L'alliance, on sait que c'est un mécanisme de régulation dissuasif de paix contre la guerre. Or là, on a vu que les alliances ne fonctionnaient pas. C'est-à-dire que Russie-Arménie, bien, on a hésité du côté russe et on a joué une sorte de neutralité d'équilibre. L'OTAN, la Turquie, s'est vue opposée, donc, comme vous le savez, souvent à la France et encore plus à la Grèce. Donc on voit bien que le phénomène d'alliance ne fonctionnait pas. Et d'autant qu'on a vu cet attelage baroque, j'insiste là-dessus, entre la Turquie, les djihadistes, l'Azerbaïdjan et Israël.
Mais quand vous parlez d'Israël, il n'y a pas d'intérêt direct d'Israël à soutenir un pays comme l'Azerbaïdjan.
Non, mais vous aviez trois guerres dans cette guerre du Karabakh qui étaient supportées par les Arméniens de cette province. Vous aviez la guerre turco-arménienne, on va dire turco-azéro-arménienne, avec le réveil du spectre du génocide du côté arménien et le risque donc flagrant d'épuration ethnique. Vous aviez la guerre contre le terrorisme avec une volonté de la Turquie de co-gérer les différents points chauds comme la Syrie, la Libye et maintenant le Karabakh avec la Russie. Donc on dégage le groupe de Minsk qui était chargé par l'OSCE de trouver une solution politique à ce conflit et pour prendre la place. Et la troisième conflictualité, c'est la conflictualité entre l'Iran et Israël. Et Israël reçoit 20% de son gaz et pétrole de la part de l'Azerbaïdjan et a vendu énormément d'armes à l'Azerbaïdjan. Et pourquoi ? À cause du facteur iranien. Mais rien ne justifiait, vu l'état faible de la menace iranienne à l'égard d'Israël, rien ne justifiait de livrer autant d'armes de la part d'Israël à son allié azerbaïdjanais.
Gaïz Minassian, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je renvoie à votre dernier livre, Les Sentiers de la Victoire, peut-on encore gagner une guerre ? Ouvrage paru début septembre aux éditions Passé Composé. Le suspense continue aux États-Unis. Il ne s'agit pas de savoir si Joe Biden a gagné l'élection, mais quand Donald Trump se décidera à reconnaître sa défaite. L'actuel président refuse toujours de le faire. « We will win, nous allons gagner », a tweeté Trump en lettres capitales. Et il n'est pas isolé dans ce jusqu'au boutisme. Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, promet une transition en douceur vers un second mandat de Donald Trump. En fait, Franck Mathevon, la plupart des responsables républicains continuent à soutenir leur candidat.
C'est le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, qui donne le ton de la réaction des élus du Grand Old Party. Tous les bulletins légaux doivent être comptés. Le président Trump est à 100% en droit d'examiner les allégations d'irrégularité. Voilà ce que dit McConnell. Plusieurs élus républicains tiennent le même discours. On dirait du Trump dans le texte. En fait, c'est plus subtil. Peu de parlementaires affirment que l'élection a été volée. Mais les républicains sont conscients de la popularité de Donald Trump chez leurs électeurs, pas question de perdre leur soutien. Autre élément, le poids du vote par correspondance, plus favorable aux démocrates, et qui a fait basculer le scrutin pour Joe Biden, les inquiète. Des élus républicains appellent un changement du système électoral pour limiter ces bulletins par courrier. D'autres ne veulent tout simplement pas faciliter la tâche aux démocrates. Ils pensent aussi aux deux seconds tours prévus en janvier en Géorgie, cruciaux pour la majorité au Sénat. Ils sont donc en campagne. Quatre sénateurs républicains ont tout de même déjà félicité Joe Biden. Leur argument, ne fragilisons pas la démocratie. Mais au fond, Donald Trump, lui, s'intéresse-t-il seulement à ce que pensent les élus de son parti ?
Franck Mathevon, envoyé spécial à Washington. De son côté, Joe Biden a repris la parole ce soir depuis son fief de Wilmington dans le Delaware. Le président élu dit avoir hâte de parler avec Donald Trump, mais le refus de Trump de reconnaître sa défaite est, je cite, une source d'embarras pour le démocrate. Je crois que cela ne servira pas l'héritage du président, a ajouté Joe Biden. L'Élysée accueillait aujourd'hui un mini-sommet européen consacré à la lutte contre le terrorisme islamiste. Le chancelier autrichien Sébastien Kurz était présent physiquement. L'Autriche et la France ont essuyé les dernières attaques djihadistes sur le sol européen, Conflans, Nice et la semaine dernière Vienne. Trois autres dirigeants assistaient à la réunion en visioconférence. La chancelière allemande Angela Merkel, sa compatriote Ursula von der Leyen pour la Commission européenne et enfin le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Eric Biegel. Le lien entre immigration et terrorisme a une nouvelle fois été évoqué.
Ce mini-sommet aura été l'occasion pour Emmanuel Macron de relancer son idée évoquée la semaine dernière de refonder l'espace de Schengen, cet espace de libre circulation des personnes en Europe, un espace qu'il s'agit de préserver, a rappelé le président français.
Je pense simplement que face aux menaces qui sont les nôtres aujourd'hui, ce droit n'est soutenable et cette liberté n'est soutenable que si nous protégeons mieux nos frontières extérieures communes. Ce que j'ai essayé de rappeler. Et donc, ce que nous souhaitons faire, c'est aller au bout d'une réforme sur le plan des migrations qui nous permet de garder l'ouverture de nos frontières entre nous, mais en protégeant mieux nos frontières extérieures.
Ce renforcement des frontières extérieures de l'Union, tout le monde semble d'accord pour le faire. Et ça passera aussi par des mesures relativement simples à mettre en œuvre, a promis Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.
Nous allons remédier aux lacunes du système d'information de Schengen parce qu'on l'a vu, la mise en œuvre n'est pas toujours parfaite. Par exemple, à l'entrée dans l'Union européenne, seuls 80% de tous les passagers sont systématiquement contrôlés. Il faut qu'on améliore cela. Il suffit de faire passer le passeport sur un lecteur optique. Donc, des choses très simples à faire, mais qui peuvent contribuer à améliorer la sécurité.
Les mesures concrètes de renforcement des frontières extérieures de l'Union seront présentées au prochain Conseil européen des 10 et 11 décembre prochains.
Eric Biegala, merci. La crise sanitaire continue à peser lourdement sur l'économie française. 628 000 chômeurs supplémentaires au troisième trimestre. 2,7 millions de personnes privées d'emploi aujourd'hui en France, selon les derniers chiffres de l'INSEE. Nouvelle illustration de la crise économique ce soir. Le groupe Printemps va fermer 7 de ses grands magasins, 4 Printemps et 3 Citadium. D'après les syndicats, 450 emplois sur 3 000 vont être supprimés. Les explications de Margot Delpierre.
L'annonce est tombée en plein confinement alors que des salariés sont en télétravail ou au chômage partiel. Le groupe ferme 4 magasins Printemps sur 19 situés au Havre, à Strasbourg, Metz et Place d'Italie à Paris. Puis il faut ajouter la fermeture de 3 Citadium sur 8, ceux des Champs-Élysées et de Nation, toujours dans la capitale, ainsi que celui de Toulon. Le célèbre grand magasin du boulevard Haussmann, qui accueille chaque année des millions de visiteurs, lui continuera d'exister, mais selon la CGT, 44 postes ils seront tout de même supprimés. Suppression également au siège et chez Printemps Voyage, affirme le syndicat. Au total, 450 emplois seront supprimés, d'après la CFDT et la CGT. 428 estime le groupe. La CGT qui regrette la stratégie de la direction ces dernières années, celle de l'international et du luxe. Elle a peut-être fait ses preuves dans les quartiers touristiques de Paris, notamment avec la clientèle chinoise, mais pas dans les autres villes, déplore le syndicat. Dans un communiqué, le groupe rappelle la différence difficultés du marché, les crises, les attentats, les manifestations de gilets jaunes, les grèves, et précise que la pandémie n'a rien arrangé. La direction affirme être dans l'obligation de transformer son modèle pour arrêter les pertes et prévoit d'investir 40 millions d'euros par an dans les 2 à 3 prochaines années.
Margot Delpierre, merci. Le groupe Printemps est détenu depuis 2013 par le fonds DISA, propriété d'hommes d'affaires originaires du Qatar. Luigi Ventura, l'ancien ambassadeur du Vatican en France, était jugé aujourd'hui pour agression sexuelle. Le procureur a requis à son encontre 10 mois de prison avec sursis. Luigi Ventura était absent à l'audience pour raison médicale. Le tribunal correctionnel de Paris rendra son jugement le 16 décembre prochain. On termine avec la météo. Demain, toujours de la grisaille sur les 2/3 nord du pays. En fin de journée, une perturbation pluvieuse abordera la pointe bretonne. Au sud, les éclaircies domineront, sauf sur les régions méditerranéennes. Les températures restent douces, de 7 à 13 degrés pour les minimales selon les régions, de 13 à 21 degrés l'après-midi du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.